c'est l'heure de Café Polar. Catherine Fruchon-Toussaint, Nathalie Amar.
Et aujourd'hui, Catherine, votre café polar nous emmène donc à Florence, en Italie, en pleine Renaissance, en 1557. Une époque où les artistes ont produit leurs plus belles œuvres, un épisode de la grande histoire qui a inspiré l'auteur dont vous allez nous parler, Laurent Binet.
Oui, un écrivain de grand talent, révélé justement par un premier roman historique qui mettait en scène là un officier nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces deux livres suivants s'ancraient aussi dans un moment clé de notre passé. Et là, il choisit le XVIe siècle où il place une intrigue policière qui nous est racontée à travers la correspondance d'une vingtaine de personnages. Un roman épistolaire donc, mais d'où lui est venue cette envie d'écrire cette fiction si singulière à la croisée de trois genres littéraires. Laurent Binet.
À la source, c'est la double envie d'abord de faire un roman policier et, comme j'ai un goût pour l'histoire qui ne se dément pas, de faire un policier historique au XVIe siècle, à Florence, parce que la période et puis le thème de la Renaissance m'avait fasciné, et Florence, c'est le berceau de la Renaissance, et ça n'est que dans un troisième temps que je me suis demandé quelle forme je pourrais adopter, et que je me suis dit que peut-être, pourquoi pas la forme épistolaire, ça me semblait une bonne idée d'essayer de combiner l'épistolaire et le policier, puisque si on a une multiplicité de narrateurs, alors on a une multiplicité de points de vue, c'est aussi ce qui justifie le S du titre de perspective. Et dans un roman policier, c'est à charge pour l'enquêteur de faire le tri entre ces différents points de vue pour essayer de faire émerger une vérité.
D'où ce titre, en effet, Catherine, perspective, perspective avec un S, hein, puisque ça fait référence autant aux différents points de vue dans une enquête dont parle Laurent Binet qu'à la perspective technique majeure en peinture.
Oui, d'autant plus que la victime ici est précisément un peintre, Jacopo da Pontormo, qui a vraiment existé. C'était un artiste attaché à la cour du duc de Florence, comme de Médicis, et que l'on retrouve ici assassiné au pied de son échafaudage alors qu'il travaillait sur des fresques. Tout est parfaitement documenté à tel point que j'ai eu un doute. Mais est-ce que Pontormo a réellement été trucidé, Laurent Binet ?
Non, non. Pontormo n'a pas été assassiné.
Donc licence d'écrivain ?
Disons que non, moi, je suis très, très précautionneux vis-à-vis de l'histoire. Je pense qu'il y a toujours un risque. La littérature, c'est une arme très puissante et qu'il faut s'en servir avec circonspection. Et qu'il ne faut surtout pas essayer de tricher, c'est-à-dire que la fiction devienne falsification, si vous voulez. Et donc, pour ça, moi, j'ai un moyen très, très éprouvé, c'est le pacte de lecture. Et ici, je vous explique que, voilà, je vous propose ce jeu de retrouver l'assassin de Pontormo. Et alors, je le fais de façon un petit peu joueuse aussi, puisque je fais une fausse préface, écrite à la manière de Stendhal. En fait, celui qui écrit la préface, c'est Stendhal. Il aurait pu l'écrire, il a écrit les chroniques italiennes, il était passionné par la peinture italienne, et donc j'imagine que Stendhal a retrouvé dans une échoppe d'Arezzo une caisse avec des tas de lettres, toute une correspondance dont il va nous faire profiter maintenant. Et donc ça, je considère que c'est mon pack de lecture, il est là, c'est le signal que voilà, on est dans un roman épistolaire.
Perspective, roman épistolaire, donc l'histoire se raconte à travers l'échange d'une centaine de lettres, Catherine, entre différents protagonistes, hein, dont Catherine de Médicis et Michel-Ange, entre autres, que des célébrités.
Oui, mais aussi des personnages moins connus de la grande histoire, par exemple, l'enquête policière qui est menée d'ailleurs par un autre peintre, Vasari, qui lui aussi a existé. Cette enquête s'intéresse de très près à une religieuse, elle aussi artiste, et qui, derrière les murs de son couvent, peint d'étoiles. Alors, j'ai trouvé ça très inattendu et j'ai demandé à Laurent Binet si c'était vraiment possible d'être à la fois nonne et peintre.
Ben, c'est d'autant plus possible que cette Plotianelli a effectivement existé, que Vasari en parle dans ses œuvres, et qu'elle était en effet bonne sœur et même prieure de son couvent. Et elle a laissé des tableaux qu'on peut voir encore aujourd'hui à Florence, dans certaines églises ou aux offices, il y a quelques tableaux. Et c'était une peintre qui est tout à fait louée par Vasari, dont les qualités sont louées, que c'était une qui faisait de très belles choses. Et c'est possible, mais alors ne me demandez pas comment, parce que l'histoire de cette bonne sœur, je la connais pas. J'aimerais beaucoup là en savoir plus. Enfin, je sais qu'elle était issue d'une riche famille, en fait, d'une famille aisée. Mais comment est-ce qu'elle s'est retrouvée peintre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous m'auriez demandé, j'aurais juré que c'était impossible. Mais les faits sont là. Il y a eu des peintres femmes, et donc il y a eu cette femme à la fois religieuse et peintre.
Et confirmation de l'auteur, il y a bien eu des peintres femmes au XVIe siècle, Catherine. D'ailleurs, quelle est la place des femmes dans Perspective? Est-ce qu'elles sont sollicitées dans cette affaire de meurtre?
Oh que oui, elles sont là et bien actives, à commencer par la famille Médicis. Par exemple, Maria, la jeune femme qui dans ses lettres raconte aussi ses amours qui ne manquent pas de piquant, mais surtout c'est la grande Catherine de Médicis qui ici montre tout le machiavélisme dont elle est capable, voire le cynisme. À l'image des liaisons dangereuses de Chauderlos de Laclos, le grand roman qui montrait les manipulations d'une femme sur son amant. Eh bien, ici aussi, Catherine de Médicis profite du crime à son avantage pour en faire une arme politique. Il faut reconnaître aussi que dans ce milieu qui grenouille de complots, de luttes de pouvoir, la future reine de France use de tous ses atouts, car force est de constater qu'il ne fait pas bon être femme au XVIe siècle. N'est-ce pas, Laurent Binet ?
Oui, c'est-à-dire que pour les femmes, c'est toujours difficile et d'une certaine manière, elles se font toujours avoir, parce que même quand elles sont filles de princes ou filles de ducs, à la limite, c'est presque pire en fait, parce que si elles sont issues de l'aristocratie, alors elles ont de la valeur. Et donc, en effet, elles sont vendues comme des marchandises. Et c'est ce qui est arrivé à Catherine de Médicis, c'est ce qui est donc va arriver à Maria de Médicis. Et Catherine de Médicis, vous avez raison, c'est-à-dire c'est son tempérament hors du commun qui l'a fait survivre d'abord à tous les bouleversements, les révoltes, les révolutions, et puis les intrigues, hein, les intrigues de cour. Que ce soit chez les Médicis ou à la cour de France, bon, c'est les Borgia, hein, aussi. Mmh. On n'est pas tellement après les Borgia, mais surtout ce qu'il a mené là où elle a été, Catherine de Médicis, c'est la chance, tout simplement. La chance, c'est que le dauphin est mort, en fait. Elle a épousé le fils cadet de François Ier, et le fils aîné est mort, et finalement, elle s'est retrouvée reine de France, en fait, par hasard. Mais, et il se trouve qu'une fois reine de France, elle a démontré des qualités politiques hors du commun, pour le meilleur et pour le pire, puisqu'elle est responsable de la Saint-Barthélemy. Bon, enfin, en tout cas, à certaines conditions très, très improbables, une femme pouvait avoir du pouvoir.
Alors, il y a une règle absolue dans le Café Polar, Catherine Fréchant-Toussaint, oui. C'est qu'on ne dévoile jamais le nom du meurtrier.
Surtout pas.
Surtout pas. Donc, on ne saura pas qui est le meurtrier de Pontormo dans Perspective. En revanche, vous avez vu dans l'élucidation de ce crime des éléments qui résonnent particulièrement avec notre époque. Quels sont ces indices, Catherine ?
En fait, ce qui est frappant dans cette enquête, c'est aussi le statut de l'artiste à l'époque. Et Laurent Binet montre combien les peintres, par exemple, étaient totalement dépendants de leurs mécènes, des gouvernants, voire du pape, qui en Italie, comme vous le savez, reste une autorité morale incontournable. Et donc ici, on apprend que la censure n'est jamais très loin. Et que par exemple, le génial Michel-Ange doit accepter que ses sculptures de nus doivent être repeintes en partie, soit recouvertes de draps pour ne pas offenser les spectateurs par l'exposition de parties intimes. Et cette mise à l'index, je ne peux pas m'empêcher de la voir revenir de nos jours, en littérature particulièrement, ce qu'a constaté aussi Laurent Binet.
Ben, c'est-à-dire que si vous faites allusion aux réécritures de Roald Dahl, de James Bond, de Agatha Christie, oui, c'est vrai que j'ai vu un lien, parce qu'il ne s'agit pas juste de censure, il s'agit vraiment de trafiquer, de réécriture, quoi, de maquiller, de trafiquer. Et c'est vrai, quand j'ai commencé à écrire mon livre, enfin, les débats sur Agatha Christie n'existaient pas encore, mais maintenant, c'est vrai que je ne peux pas ne pas voir un parallèle entre le fait de repeindre par-dessus Michel-Ange, de barbouiller sur Michel-Ange, et puis de couper, de rajouter, de retricoter des œuvres de diverses origines. Et c'est vrai que j'avais lu un article de Lionel Shriver, l'écrivaine de Il faut qu'on parle de Kevin, qui avait dit « ôtez votre sale patte sensible de nos livres », qui faisait allusion à ces sensitivity readers, et « ôtez vos sales pattes de nos œuvres », je me dis que c'est ce qu'aurait pu dire, c'est ce que je suppose avait envie de dire Michel-Ange quand il voyait que... Parce qu'il a fini, il a trouvé que c'était un moindre mal, ce barbouillage, pour éviter la destruction, mais j'ai aucun doute sur le fait qu'il n'était pas emballé.
Et moi, en revanche, je suis très emballée par le roman de Laurent Binet, comme vous avez pu le constater. Et je rappelle le titre de cette merveille qui mêle plusieurs genres littéraires, historiques, policiers et épistolaires. Perspective, qui vient d'être édité au Livre de Poche. Et comme d'habitude, l'intégralité de ma rencontre avec l'auteur est à écouter dans le podcast Café Polar.
Et on se retrouve la semaine prochaine, Catherine.
Avec plaisir.